Bonsoir et bienvenue dans un épisode spécial du podcast. Je suis entouré d'une équipe très limitée aujourd'hui car je suis moi-même, ici moi-même, et il y a bien entendu face à moi Yann Inksreader de Radio01.net.
Bonsoir.
Nous allons un peu répéter tes émissions. Tu es actuellement en train de travailler sur un nouveau modèle qui s'appelle Respawn.
Exact.
Que le grand geek me croque, des apparitions sur Radio01 et Synops Live, bien entendu. Tu es donc ce qu'on pourrait appeler un homme de la renaissance. À notre époque, c'est rare.
En quelques... Écoute, si tu veux, c'est une façon assez originale, et oui, pourquoi pas, de la renaissance, dans ce sens-là, tout à fait. Donc plein de projets que vous pouvez suivre un peu partout, et n'oublions pas le Vidéoludiste, quand même, un projet
bien
sur
entendu.
Lequel nous travaillons ensemble, ainsi que le podcast que vous êtes actuellement en train d'écouter.
Alors, pour ce soir, nous avons prévu une petite chose assez simple, un questionnement relativement simpliste, mais efficace, qui mérite d'être mentionné, c'est-à-dire, quels sont les traits communs du fanboy à travers les âges et à notre époque ? Donc, je pense que tu voulais commencer par une réflexion qui nous posait sur les bases de « Le fanboy est-il vraiment un dérivé du troll, finalement ?»
Alors, un dérivé du troll, la chose est très intéressante parce que, finalement, la façon dont la façon qu'utilise le fanboy pour défendre son point de vue, pour dire « ta console est meilleure que la mienne, tes jeux sont meilleurs que les miens », et on reviendra justement sur cette appropriation du jeu ou de la machine.
Où la personne peut-être même se reconnaît dedans, bizarrement.
Effectivement. En tout cas, ce qu'utilise cette personne-là, la plupart du temps, c'est par la dépréciation de ce que possède l'autre, de ce que ne possède pas l'autre. Dans le sens où, mais ton personnage mascotte sur ta console, c'est un hérisson, tandis que le mien, c'est un plombier moustachu, il est bien plus classe, des choses du genre. Donc on note vraiment un côté très critique, mais même critique à outrance, sans trop d'argumentaire, juste que le tien est meilleur que le mien, et de toute façon il n'y a pas de justification possible puisque j'ai raison.
Mais évidemment.
C'est quelque chose d'assez péremptoire, et c'est ce qu'on retrouve chez les trolls, sur internet hein, par exemple, mais aussi dans la vie courante, des gens qui, quoi qu'il se passe, vous diront de toute façon... Écoute, ton avis, c'est bien gentil, mais je considère que ça, c'est pas du tout bien, c'est tout à fait affreux, c'est mal fait, c'est nul. Donc je t'impose mon avis de la manière la plus sèche et la manière la plus directe possible. Et ça, c'est quelque chose de très important, surtout que les trolls peuvent être des gens finalement... les fanboys peuvent être des gens finalement assez jeunes, qui n'ont pas forcément le...
Assez jeunes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore vécu toute leur vie.
C'est pas faux. Sinon, ce que je veux préciser, c'est que justement, apporte un intérêt tout particulier à ces consoles-là, se concentrent dessus, concentrent
leur
c'est très important. Voilà. C'est quelque chose de il faut défendre sa console parce que ça fait partie de l'identité de la personne.
Mais c'est un truc qui m'a toujours semblé très très bizarre, c'est l'identification, pas vraiment un type d'expérience, mais vraiment à une marque, tu vois, les gens qui se font tatouer les sigles PlayStation sur la peau et des trucs comme ça m'a toujours semblé, c'est un exemple qui est évidemment outrancier, hein, mais il existe.
Écoute, sur le coup du tatouage, c'est vrai que ça me paraît étonnant pour un très jeune de se le faire faire, enfin... On remarque quand même, je vais prendre un exemple tout à fait trivial, mais assez représentatif, les forums de jeuxvideo.com, je suis désolé.
Pourquoi pas.
Quand même, on remarque une population de fanboys assez astronomique sur ces forums.
Et violente.
Et violente, et on remarque aussi que l'âge moyen des utilisateurs de ces forums, mine de rien, approche de 12, 13, 14, 15 ans. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont cet âge-là, qui fréquentent des forums ou qui expriment leur avis sur le média vidéoludique, sont des fanboys, bien au contraire. Mais
non, évidemment.
On remarque quand même que ces gens-là sont beaucoup plus sujets, je pense, au marketing, sont beaucoup plus sujets à la communication qu'on fait autour du jeu vidéo, et qui s'est de plus en plus radicalisé avec, évidemment, l'exemple emblématique,
Finish the fight.
Ah, il y a ça, il y a aussi The Genesis Does What Nintendo Don't.
Exactement.
Il y a plein d'exemples, et c'est ce qu'on appelle la publicité comparative. Fournit du grain à moudre.
Du grain à moudre, bien entendu. Penses que c'est qu'en quelque sorte, au moins, la guerre des consoles qui a en perpétué l'évolution et qui a toujours lieu est au moins un exutoire sain pour certaines, dirais-je, pulsions adolescentes ?
Sain, je ne sais pas. Plus sain, en tout cas, qu'aller fracasser des voitures dans la rue, ça, j'en suis absolument certain. Maintenant, C'est vrai que les ce qui me gêne, c'est pas finalement que les fanboys soient fanboys, c'est la façon dont les marketeurs en profitent.
Ah, mais il est certain qu'au plus t'es jeune, au plus t'es perméable à la publicité.
Parce qu'avoir un, comment dire, un consultant gratuit qui va faire ta propre pub dans la cour de récréation, qui va faire ta propre pub auprès de tous tes amis, auprès de choses comme ça, c'est quelque chose
Oui.
de très important
Attends, mais
pour une
je sais pas
société.
si tu te souviens de l'exemple de Sony qui a essayé de revendre la PSP avec un petit gamin black qui s'appelait Marcus.
Oui, tout à fait. C'était une campagne de publicité qui avait été lancée à l'occasion de l'E3 2010. Je m'en souviens très bien.
Exactement, mais c'était la honte.
Alors, non seulement c'est bon. Non seulement la PSP partait à la dérive, mais c'est un autre problème. Mais c'est vrai que et là, on peut noter un trait très intéressant chez Sony, c'est qu'ils ont quand même très souvent fonctionné sur ce tableau-là.
Bon, pas toujours. Ils ont eu des très belles pubs, mais pour ces dernières années, c'est clair que c'est ça le problème.
Ils ont eu... ouais. Mais si tu te souviens bien de la campagne publicitaire de la PSP en France, c'était les premiers seront les premiers. Ruez-vous dessus. Ruez-vous dessus, ça va être une par rapport à la DS, ça va être une tuerie graphique. C'était l'argument de vente numéro un. C'est enfin, il va falloir ridiculiser ceux qui ont une DS. C'était l'idée numéro un.
Ouais, mais en même temps, ça veut juste dire acheter vite.
Acheter vite, ouais, voilà. Mais acheter vite sans réfléchir, on peut faire un lien entre argumenter sans réfléchir et acheter vite sans réfléchir.
Ah, évidemment.
D'un côté à l'autre, enfin, je veux dire, il y a un pas qu'on peut franchir assez rapidement.
Franchissons donc ce Rubicon et entrons directement dans la mastière. Est-il engendré seulement par la communication et la publicité, ce troll, ou peut-il se considérer comme le réceptacle d'une légende, dirais-je, d'une tradition du jeu vidéo, comme certains le pensent?
Enfin, comment dire, le jeu vidéo en termes de tradition a toujours accueilli la communication d'une manière ou d'une autre. Il a toujours fallu communiquer sur les produits, il a toujours fallu
Comme tout, en
vendre.
somme.
C'est quelque chose d'assez indispensable dans la société capitaliste qui s'est confirmée depuis, très fortement confirmée depuis la chute du mur de Berlin. C'est là, maintenant, faut vendre. Quoi que ce soit, faut vendre. Et en jeu vidéo, faut vendre. La mise à
Chut.
disposition de jeux vidéo gratuitement, quelque chose d'assez rare finalement, ou fourni par la publicité. Oui?
Chute du mur de Berlin qui coïncide avec ben le retour du jeu vidéo après le crash,
Ça,
bizarrement.
c'est pas faux non plus, et on remarque quand même que les campagnes publicitaires, justement, le Sega agressif vient
Oui.
après, vient en fait justement du renouveau vidéoludique du Japon, avec d'un côté justement Nintendo qui se relance de manière, qui se lance de manière fulgurante là-dedans, qui fait la NES, qui s'exporte aux États-Unis, qui fonctionne du feu de Dieu aux États-Unis,
Qui
et de
devient
l'autre côté,
synonymique de jeu vidéo.
qui devient, voilà, là, t'as Nintendo, qu'est-ce que tu
Exact.
fais avec ta Nintendo, etc. Et justement, le fait que les personnes soient peu informées, là aussi, participe à une certaine forme de fanboyisme latent, qui est finalement, les autres consoles, ça m'intéresse pas, je connais que ça, et ça me va très bien.
Mais il
Le
y a en
manque de
plus.
curiosité, est... voilà.
J'étais en train de me dire qu'évidemment, en plus, ben, évidemment, la jeunesse aidant, on n'a pas d'indépendance économique. On est donc finalement pieds et poings liés à la machine que l'on a décidé de soutenir.
Alors il y a aussi, ah oui, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis là, parce que il y a aussi une
Ouf.
question de
Tu
défense
vois,
de
en
son
le
propre
disant, je me
intérêt.
disais c'était très très con.
Non, c'est pas si con que ça en fait, c'est pas si con que ça.
Je me suis dit, autant enfoncer une porte ouverte.
Je suis d'accord avec toi sur ce point-là, et c'est ce qui peut aussi expliquer le phénomène fanboy finalement. C'est le fait qu'on n'a que ça et que techniquement, on défend ce qu'on a. Enfin bon, ça c'est un
C'est
pur
logique
réflexe,
aussi.
mais c'est une question. Bon, après, on va pas rentrer dans les détails de sociologie, parce que déjà, de un, je pense que nous avons les
J'ai
compétences
fait
pour
très peu de sociologie, je t'avouerai.
nous lancer
J'étais
là-dedans.
bon en sociologie, mais j'ai fait très peu de sociologie.
Ça viendra peut-être un jour en ce qui me concerne, mais ça reste assez improbable.
Alléluia.
Hein. Ça restera assez improbable vu les orientations que je vais prendre. Bref, parenthèse fermée. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. On parlait
Nous en
justement, oui,
étions à l'indépendance
à l'indépendance.
capitaliste, disons
Exactement.
l'indépendance de l'argent.
L'indépendance de l'argent. Sur le jeu vidéo, bon, le jeu vidéo est quelque chose d'assez dispendieux, de toute façon. Donc, acquérir une indépendance
Si
totale, pouvoir
fait.
s'acheter toutes les consoles, pouvoir tester toutes les expériences, c'est quelque chose d'assez utopique, à moins justement de bénéficier d'un plus, comme par exemple le fait de travailler pour une société éditant du jeu vidéo, ce qui permet de mettre la main sur un certain nombre de produits, soit de faire partie du corps de métier journalistique, qui
Ben moi je
permet
suis juste assez nantique pour
aussi.
avoir tout aussi neuf.
Alors voilà, après, effectivement, il y a la possibilité d'avoir tout, enfin tout, tu n'as pas tout.
Bah, à part la NEC PC Engine.
Ah voilà, tu n'as pas tout.
Non, et j'ai pas la Neo Geo non plus. Mais j'ai un Virtual Boy. Ah ah.
Et peu de gens peuvent s'en targuer.
Peu de gens peuvent supporter d'y jouer.
En Europe, oui, aussi, sans tout de suite être transformé. Enfin bref, ça rejoint un peu notre dossier que nous avons dû annuler. Oui, le dossier que nous avons dû annuler sur la 3DS, tout à fait.
La 3DS en même temps, c'est un peu la question qui se pose. Justement, on est en train de se voir une nouvelle génération de consoles se ramener.
Exact.
Et même maintenant, l'argument de la 3D avec lunettes contre la 3D sans lunettes, ça déchire une partie de la communauté. Il y a des gens qui sont là, mais comment est-ce que tu veux que ce soit de la bonne 3D sans lunettes? Et les autres, mais non, c'est parce que je veux pas porter de lunettes que je veux de la 3D comme ça. Et c'est ridicule, mais la présence est encore là, quoi.
Mais ce qui est très intéressant aussi, et ce que j'ai noté par rapport à le face-à-face, alors j'espère que ce podcast sortira avant que la NGP aura trouvé son vrai nom, sinon on aura l'air ridicule.
Quoi, la Neo Geo portable?
La Neo Geo Pocket, ouais. Voilà. Donc là, on se dirige vers un gros face-à-face sur l'année 2011 NGP 3DS, même si Nintendo a pris les devants. La chose très intéressante, et qui est notamment liée à la question du prix, c'est que d'un côté comme de l'autre, les gens sont en train de renier les deux consoles à la fois. En disant, d'un côté, c'est une pure folie, une console à 250€ qui n'est pas capable de tourner plus de 3h30 avec un line-up qui, pour l'instant, à part Super Street Fighter 4, sent un peu roussi.
Ouais, mais ils ont Nintendox and Cats.
Voilà, mais je vois mal un fanboy défendre Nintendox.
Moi, j'en ai entendu des mecs, oulala, Nintendo, ils sont quand même vraiment, c'est des gars avec des chutzpah, ils sont énormes, ils ont sorti un jeu, tu vois, qui est intégralement construit autour du feeling d'avoir un chien, t'es là. C'est bien.
Le titre le plus écoulé sur Nintendo DS, ça reste Nintendox.
C'est une volonté.
Il y a des choses extraordinaires sur DS, mais c'est...
Bah, les gamines de 8 ans, elles voulaient Nintendogs.
Mais je suis sûr que dans le tas, il doit y avoir des utilisateurs normaux qui ont acheté Nintendogs et qui y ont joué plus d'une heure. C'est évident, moi aussi.
On a tous joué à Nintendogs, c'est un petit secret honteux, en fait, mais c'est vrai.
Voilà, c'est ce genre de titre qu'on... Bah, pas qu'on préfère oublier, mais disons qui... On s'étonne parfois de les voir dans nos ludothèques. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va forcément descendre en flèche le constructeur qui n'aura pas sorti son Nintendox, qui n'aura pas eu son succès. Surtout qu'à partir de maintenant, à peu près tout le monde a sorti son équivalent de Nintendox, mais c'est un autre sujet.
Oui, mais c'est vrai.
Si tu regardes entre Sony avec iPad, Microsoft avec Kinectimals, c'est Frontier qui a développé Kinectimals, hein.
Je n'en sais absolument rien, je ne suis pas
c'est
au courant.
C'est les gens de Lost Winds et ils devraient continuer à développer du Lost Winds, ça leur allait beaucoup mieux.
J'ai pas vraiment aimé, mais je peux comprendre. Donc, on va recentrer un peu le truc. On était finalement sur l'argumentation, qui est l'argumentaire, qui est relativement vide de sens, dans le sens où finalement, bon, bah évidemment, quand tu n'as rien finalement.
La tienne est plus grande que la mienne.
La mienne est plus grande que la tienne, elle a plus de pixels en somme.
Exactement. Alors ça, il faut quand même citer un exemple, je trouve toujours extraordinaire là-dedans, c'est la bonne vieille bataille des polygones affichés.
Oui, parce que
ça m'a paru d'un parvenu à chaque fois. Vous comprenez, ma console affiche 35 millions de
triangles,
de polygones, c'est fantastique, et puis ma console est une 32 bits, vous prenez, ce n'est pas une 64 bits, alors pour l'OL, je serais ridicule sous le chapin. Ce que Nintendo avait bien évidemment oublié, c'est qu'elle était mille fois reportée, la Nintendo 64, mais ça c'est
un problème. L'Ultra 64.
Ultra 64, tout à fait. Enfin bref, pour dire que il y a quand même, je veux qu'on me cite un véritable argument qui permet de départager les consoles autres que les jeux eux-mêmes. Finalement, à moins d'une erreur industrielle catastrophique, comme tu l'as cité avant, le Virtual Boy qui foutait un mal de tête absolument.
Il joue mal, parce que la Wii, tu bouges pas vraiment les bras en fait. Tu bouges les poignets.
Non, c'est clair, tu peux t'en tirer à très très bon compte. Maintenant, le truc, c'est que sur les générations actuelles, mis à part la bibliothèque de jeux, ce qui finalement est un truc assez secondaire dans le vocabulaire des trolls, même si on va pouvoir y revenir aussi. Des trolls.
Lapsus, on a du mal à faire la taxonomie des gens, c'est terrible. Donc on va revenir. Le fanboy, il soutient une marque. Le troll, il fait chier.
Voilà, et ça c'est très intéressant parce que le fanboy soutient souvent une marque en faisant chier.
Les deux.
Voilà.
C'est pour ça qu'il y a comme une zone grise où ils se recoupent, on a du mal à faire la différence, en somme.
Honnêtement, je pense qu'il y a une certaine filiation, si on voulait faire une espèce de hiérarchisation des phénomènes, notamment des phénomènes Internet, mais aussi des phénomènes sociaux liés à ces marques, liés à ces sociétés. C'est le fait que tu aies reçu le message « ma machine, elle est cool !» des choses comme ça, que tu te dis « ouais, elle est cool, machin, j'ai payé X 1000 ou j'ai fait tel truc pour que mes parents me la payent, il faut qu'on me considère comme tel. »
Aussi.
Évidemment, si tu n'es pas considéré comme tel parce que tu as d'autres gens en face qui disent « bah non, moi j'ai une Mega Drive, non, moi j'ai un Atari ST, non, moi j'ai une Wii, non, moi j'ai ci, j'ai ça », il y a une réaction à limite allergique qui est de dire « vous avez rien compris, la mienne elle est mieux, parce que d'abord c'est la mienne
»,
ce qui est tout à fait ridicule.
Mais ensuite, en fait assez compréhensible.
Et ensuite, à partir du moment où on a passé le cap de « parce que c'est la mienne », il y a une recherche d'arguments. Le problème, c'est que l'argumentation en soi, elle ne peut pas trop tenir debout parce que, justement, chaque constructeur accepte des jeux différents, d'éditeurs différents.
Avec certains cahiers de charges qui sont différents, voilà. certaines barrières d'entrée. Mega Drive, ils avaient pas mal de tiers parties simplement parce que la licence coûtait rien.
Exactement. Exactement. Ce qui d'ailleurs
était
super pratique pour la renommée. Ce qui n'est pas d'ailleurs très pratique pour la renommée et pour les publicités que tu peux en faire après. Mais. Non. Le truc, c'est qu'il y a une recherche dans le vide d'arguments et du coup, on sort tout et n'importe quoi. Et c'est là que le fanboy devient troll. C'est là qu'il se met à faire n'importe quoi.
Je te propose un premier exemple. Je vais prendre une voix de fanboy.
Oui.
Par exemple, Sonic, ce serait impossible à faire sur la Super NES pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de Blast Processing.
Bon, alors... ça, honnêtement, je trouve très étonnant que quelqu'un qui n'ait jamais développé de sa vie sorte ça.
De 1. Deux, ça sent un peu, c'est l'argument qu'on nous sortait, c'est simplement le blast processing, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut peut-être revenir aux bases de la chose.
Oui,
c'est simplement
très bonne question, parce que je ne sais pas.
Que la Sega Mega Drive, alors je n'ai pas les informations en face de moi, mais je me souviens que c'était le CPU de la Neo Geo en une version cheap et avec une bonne fréquence. Donc ce que ça veut dire, c'est la Mega Drive, en fait, son CPU, elle tourne plus vite que celui de la Super NES.
C'est chouette. Mais alors du coup, on peut prendre le troll en défaut en lui disant, oui, mais ton Sonic, il aurait pu tourner sur Neo Geo.
Aussi.
Donc finalement, le talent hardware de Sega est limité parce qu'on voilà, là aussi c'est quelque chose de très important. Le fanboy n'accepte la comparaison que là où il a raison.
De 1.
Et ça c'est un point très important. C'est il est quand même malin dans un certain, enfin il est malin. Au départ il est malin parce qu'il présente les choses sur le jour qui l'intéresse. Évidemment, à partir du moment où quelqu'un lui fait remarquer qu'il a une vue totalement biaisée des choses, là on part dans l'argumentaire pitoyable de tu as tort. Tu es mauvais, et après ça part presque dans l'insulte. Si tu regardes, il y a une époque, je ne sais plus comment s'appelle ce site, c'était Jeu France, qui avait un forum gaillard des consoles, un truc comme ça, ça partait en tournoi d'insultes sur les topics. Oui. C'était une catastrophe.
En fait, la guerre des consoles, c'était sur jeuxvideo.com, je crois.
Mais Gamekult a aussi ouvert le sien juste pour endiguer ça sur les topics d'autres jeux.
Oui, c'était trucs. Simplement pour que les gens qui sont dans cette place se retrouvent là, somme toute.
Exactement, ce qui permet justement de garder une discussion assez calme et posée, la plus possible du tout du moins, sur les autres forums.
Alors, second exemple que je propose, qui est assez génial, c'est « Ben non, je vais pas aller jeter le move, ça coûte super cher, et t'as vu Kinect ?» Au moins, ça c'est cher, mais c'est de la qualité, c'est une seule pièce.
Alors là, encore une fois, on nous parle du produit, très bien, il est très heureux d'acheter son produit, plus ou moins cher. Maintenant, où sont les jeux ? Ah, par contre, sur cet exemple particulier, que ce soit sur Move ou sur Kinect, pour l'instant, il n'y a rien de très attirant.
Non, ni l'autre, pour être très franc. C'est un peu un désert.
Pour la simple et bonne raison que les éditeurs ne sont pas purement forcés de publier là-dessus. Nintendo a eu l'idée culottée qui finalement a...
D'en faire le standard de la machine.
Voilà, qui a marché, qui n'a pas marché, qui a marché dans le sens où il a réussi à faire adopter cette machine au grand public et à faire adopter ses jeux first party, ce qui fonctionne d'ailleurs très bien. Par contre, les jeux third party sont un four monumental à chaque fois.
Sauf Resident Evil 4, quoi.
Sauf RE4 qui bénéficie d'une aura assez, assez grandiose quand même dans la communauté gamer et quelques autres exceptions notables. Malgré quelques autres exceptions d'exception comme Okami qui s'est pris aussi une veste.
Ouais, mais Capcom, c'est pas exactement la rançon du succès sur Wii. C'est, ils ont vendu Resident Evil 4, ils ont pensé qu'ils avaient un marché, et puis après.
Non, effectivement. C'est très clair. Bon, sur le cas même Resident Evil 4, il y a aussi le fait que l'épisode précédent ait été publié sur GameCube et que l'édition GameCube ait bénéficié d'une renommée, du coup, association d'idées GameCube, Nintendo, Capcom, Resident Evil 4.
Exact.
À mon avis, ça a dû jouer dans l'inconscient collectif.
Certainement.
D'autant plus que la conversion était somme toute assez honnête, d'après ce que j'en ai lu.
C'était la version définitive de la question, en fait.
Ah, bah bonne nouvelle dans ce cas-là. Ça a permis aux gens de découvrir.
Pour peu que tu veuilles jouer à la Wii.
Voilà.
Enfin, la question se pose.
Ah, un début de troll peut-être, mon cher Masque.
Non, non, mais écoute, moi la Wii, c'est bien, mais je l'ai, hein, mais c'est pas pour autant que je joue autant dessus, simplement, parce qu'il y a un moins grand flux de jeux, tout simplement.
Et c'est là la différence, justement, c'est que tu as lancé une petite pique pour lancer la discussion sur la question de la Wii, mais tu as argumenté. Tu y joues, t'as eu des bonnes expériences sur Wii.
Ben, j'y joue, mais c'est terrible, mais voilà, j'y suis aussi pour les Disaster Day of Crisis aussi.
Oui, mais alors, enfin, bon, les jeux qui ont comme héros principal un mec qui s'appelle Raymond.
Raymond, bref. Raymond Bryce.
Raymond, viens par ici, Raymond, viens sauver l'humanité, tu t'appelles Raymond, et ton nom sera marqué sur une pierre géante que toute l'humanité verra.
Bruit de chaussures.
Ouais. Attention, tu as 15 secondes pour te préparer au Quick Time Event.
Voilà, vous avez entendu un moment de Disaster of Crisis. Il nous reste encore finalement, oui. Après l'argumentation vide de sens, on va finalement se terminer sur le troll finalement. Est-il forcément un fanboy finalement ?
L'est-il forcément le troll ? Non, pas forcément. C'est vrai qu'il y a quand même une... comme on l'a dénoté, une tendance trollesque quasi évidente chez le fanboy. Voilà, exactement. Par contre... Le troll peut être un chieur qui n'aime rien ou qui feint de ne rien aimer.
Les fameux gens, je n'aime pas.
Voilà. Et eux, ça les... Alors, personnellement, je ne comprends pas hein, cette attitude, mais c'est des gens qui s'amusent énormément à critiquer, là aussi, sans aucun argument, tout ce qu'ils voient. Mais même pas en invoquant une raison quelconque, comme le ferait un fanboy, parce qu'il veut étayer son argumentaire, mais c'est nul. Pourquoi ? Non, c'est nul.
T'as vu, c'est nul.
C'est nul. T'es mauvais. C'est ce genre de choses-là qui ressortent le plus souvent avec les véritables trolls. Après.
Non, moi je trouve que le troll, ce qui est beau, c'est quand c'est évolué. Tu vois que le mec, c'est une science du troll.
Il peut y avoir une créativité dans le troll, une façon de se moquer.
Un espèce de côté, le pouvoir obscur de la force. C'est genre le type qui se ramène, qui fait. Ah, ils auraient jamais dû arrêter Star Trek après avoir tué Dark Vador.
Oui.
Truc comme
moi,
ça.
Je me souviens aussi, c'est pas forcément du troll, mais pour ceux qui connaissent XKCD de Randall Monroe, qui est une espèce de petit webcomic absolument fantastique, on voit un groupe d'amis en train de regarder Matrix. Et à un moment, il y en a un qui sort bon, on regarde les deux autres. Et puis, t'as les amis qui font quels deux autres ? Voilà, ça explique assez facilement. Ça n'existe pas, les deux autres films Matrix.
Highlander 2 non, non,
non. Non, non. Non plus. La série animée Highlander, tu te rappelles ?
Non, 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 non. Mais il faudra m'expliquer pourquoi tous les MacLeod sont Highlander, en fait, et immortels.
Même Fox MacLeod dans Star Fox ?
Précisément. Et aussi Scott MacLeod dans la bande dessinée, Scott MacLeod.
Note bien que Fox MacLeod ne meurt pas. Tandis que son père, si.
Non, mais il faut m'expliquer pourquoi Fox MacLeod change de physique de manière diamétrale toutes les 10 ans. Ces gens, ils ne se ressemblent plus.
Parce qu'ils changent de développeur tous les 10 ans.
Ouais, ce n'est pas très intelligent en systems.
Oh, très très fin, bravo.
On fait ce qu'on peut.
J'irai WarioWare ailleurs pour d'autres jeux de mots de même acabit.
Ah oui, qu'est-ce que tu veux, c'est un peu... qu'est-ce que j'ai acquis Street Fighters.
Je crois qu'on va s'arrêter là avec le concours de jeux de mots.
Donc, alors, il nous reste aussi les salopathiques, c'était mieux avant.
Ah, oh oui, dérivé, c'est ceux qui étaient restés bloqués sur le vieux débat Atari Amiga.
Par exemple, il faut évidemment se dire qu'on axe ça sur des angles, mais on pourrait le prendre d'un point de vue philosophique. Hein. Il y a tout simplement les gens qui considèrent qu'avant c'était mieux, que quelque chose a été perdu, et qui donc d'une manière ou d'une autre défendent leur enfance ou leur jeunesse d'un côté ou de l'autre. Et de l'autre côté, il y a ceux qui sont plus techniquement basés sur telle architecture, donne tel résultat, c'est pour ça que je l'aime.
Personnellement, j'aurais un point de vue beaucoup plus global et beaucoup plus
je t'en prie.
Objectif sur la question. Enfin, vas-y. J'ai un point de vue en l'occurrence. C'est non seulement je trouve que c'était mieux avant touche le ridicule à un point absolument merveilleux, mais je suis un grand adepte du rétro gaming, ce qui peut sembler paradoxal dans un premier temps, mais qui ne l'est pas, parce qu'on vit à une époque formidable où non seulement on peut jouer à des jeux de 2010, mais en plus on peut jouer à des jeux de 1980.
C'est vrai. Avant, c'était pas possible.
Cette variété-là et la possibilité de trouver des jeux de 1980 à un prix défiant toute concurrence, sauf évidemment sur eBay où il y a des gens qui posent des choses mint in box et que ça coûte des 300 milliards de dollars à chaque commande.
De frais de port.
En plus de frais de port, t'imagines un peu le prix du truc en général. Pour dire, l'époque actuelle, enfin je veux dire, le moment présent, quel qu'il soit, est mieux. Parce qu'on a accès à un maximum de choses, à mon avis. On n'a rien perdu. Il y a eu une création, il y a eu des rééditions effectivement, mais il y a toujours une création en matière vidéoludique, et on a toujours accès, il n'y a rien qui nous interdit de remettre une cartouche NES dans une NES et de la faire fonctionner. À part évidemment le temps qui pourrait avoir altéré la machine, mais généralement ces bidules-là fonctionnent encore pas trop mal.
Ouais, alors moi je prendrais aussi l'exemple d'hiver, qui est l'inverse de l'exemple d'été, hein,
Tout à
logiquement.
fait.
C'est donc celui qui nous dit que bon, il est ridicule de vouloir chercher à comparer l'incomparable et que simplement ce qui est neuf est différent. Neuf est différent et l'ancien est au moins à remarquer d'un point de vue historique, toujours, hein,
Mais
mais à
d'ailleurs,
partir de ça.
tout ce qui était à cette époque-là était différent. Chaque chose était différente, finalement. Chaque produit était différent.
Oui, mais voilà, ce qui est amusant avec le jeu vidéo, c'est comme par exemple, en faisant le vidéoludiste, tu te rends compte que tout est dans une continuité.
Totalement, totalement. C'est ça qui est très intéressant. Mais on remarque aussi justement le fait que l'industrie en elle-même n'a pas tellement changé. Il y a toujours
Pas
des
du
gens qui
tout.
repiquent des idées, il y a toujours des gens qui font faillite, il y a toujours des gens qui ont des idées géniales. Et ça n'a pas bougé en ce sens-là depuis 60 ans.
Mais le fait est que tous ces gens, ils ont travaillé dans un but. Et ce but, c'est celui de faire avancer ce que le jeu vidéo peut faire.
Je ne veux pas oublier les éditeurs, celui de se remplir les poches.
Oui, non, d'accord,
Mais.
certes, mais parfois, t'as un exemple heureux, t'as un accident sympathique qui arrive. Donc.
Non, mais c'est
Et que
totalement
donc,
ça.
dire que c'était mieux avant, c'est nier le sens du jeu vidéo qui est de chercher à faire toujours différent, toujours quelque chose qui soit en présence et en agrippement avec l'esprit de la personne qui y joue.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Somme toute.
Exact. Je te propose, mon cher masque, écoute, de clore ce
D'accord.
podcast. Toutefois, que réserve, que nous, qu'est-ce que nous réserve le prochain numéro?
Dans le prochain épisode, entrez dans le monde hautement controversé des Street Fighters, ces gens qui, tous les jours, vont au fond de leurs limites, se poussent au maximum de leurs capacités et se battent contre des rues.
Ah oui, effectivement, c'est quelque chose de terrible. Je crois que c'est un dossier d'investigation qui ne manquera pas d'être traité avec sérieux et avec,
J'ai
pensant, de
passé
manière très
2 semaines
consciencieuse.
dans une abbaye près de
Voilà.
Mons pour.
Arthur Meurant en immersion à Street Fighter.
Et les moines locaux m'ont expliqué ce qui se passait dans le domaine pugilistique local et pourquoi finalement
Exact.
l'on entendait résonner de nouveaux bruits sur les pavés de leur ville.
C'est vraiment à ne pas manquer dans le prochain numéro du podcast. D'ici là, évidemment, retrouvez-nous partout, hein, sur
Partout.
radio01.net, sur push-start.be, bien évidemment sur iTunes. N'hésitez pas, que ce soit sur le flux podcast de Radio 01 ou celui du podcast, de nous mettre 5 étoiles, de nous mettre des gentils commentaires si vous trouvez que nous le méritons. Nous l'espérons en
Évidemment,
tout
si vous
cas.
considérez que nous ne le méritons pas, nous vous demandons de vous abstenir, bien entendu.
C'est une meilleure idée, effectivement. Ou alors, mettez quand même 5 étoiles et mettez un commentaire assassin. Mais juste
Voilà.
5 étoiles. C'est quelque chose de très sympathique, ça nous permettra de progresser encore plus et de nous améliorer à fortiori, car si vous faites un commentaire assassin, nous en tiendrons compte, bien
Bien
évidemment.
entendu, nous ferons semblant d'avoir une espèce de fausse pluralité dans
Exactement.
notre avis. Il est peut-être utile de signaler, de
Oui,
saluer même les gens qui
les
n'étaient
deux
pas là.
absents. Exact, j'allais le
Donc,
faire.
Nima Kalios Baudouin de
Oui.
push-start.be, il est actuellement en train de regarder le nouveau film Tron, ce qui me permet de dire Hey, Tron! Et
Voilà.
bien entendu, Zulmaster qui est actuellement en train de sauver le monde d'une attaque de termites
Oui.
génocidaires, qui sont bien entendu situées dans le 4e arrondissement. Suivez-le sur Twitter, bien entendu.
Très bonne idée. Et
Remerciements
Twitter?
particuliers à toi, mon cher présentateur, Yann
Monsieur Derrida.
Inksreader de radio01.net, et je crois qu'on a à peu près fait le tour de la table.
Exactement, mon cher Arthur Masmeurant de push-start.be, présent dans plein de projets fantastiques, comme par exemple le Vidéoliste, le podcast, ou
Oh, je crois
encore.
qu'on peut éviter de faire le troisième coup de pub, ce
C'est
sera pas
cruel.
super utile.
C'est absolument merveilleux.
Je
Allez,
vous embrasse, et
allez,
salut!
salut!
Ah, il était bien celui-là.
Je laisse l'enregistrement courir et c'est bon. On a fait une petite demi-heure pour un épisode bis, ça va.
Ça va, ça m'a l'air raisonnable.